Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de débuter la semaine en votre compagnie, comme chaque lundi, dans Radio Foot. Ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve après 40 buts en Ligue 1 et un sacre, bon, le sacre du PSG. Ça, c'est très habituel, tellement habituel que Paris ne se fatigue même plus à gagner son match pour être champion. Il se contente d'un nul contre un promu, un nul suivi d'une soirée télé, plateau télé devant Monaco-Lyon. Dit comme ça, ça manque un peu de panache, alors que Paris vit l'une des plus belles saisons de son histoire. Ce PSG 2024 fait-il un beau champion de France? On va pouvoir en parler en toute objectivité aujourd'hui, car Eric Rabessandratana, l'ancien défenseur parisien, n'est pas là. Marc Libra, l'ancien attaquant marseillais, n'est pas là non plus pour l'embêter. On les embrasse bien évidemment. Yoro Mangara, lui, est bien avec nous. Bonjour Yoro.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Vous êtes un peu parisien sur les bords.
On peut dire ça.
Dakarois de naissance? Même pas.
Si, bon, si, si.
Dakarois de naissance, mais parisien d'adoption et PSG un petit peu dans le cœur quand même.
Oui, on peut dire ça, je peux dire ça.
Mais de l'objectivité, de la tempérance à la sénégalaise, c'est pour ça qu'on vous aime. Patrick Juillard, lui c'est le niçois, il n'y a pas de danger. Bonjour Patrick.
Aucune ambiguïté là-dessus, je ne suis pas parisien.
Et pas...
Sinon d'adoption, mais pas footballistiquement.
Et pas vraiment concerné par la lutte pour le titre. Donc,
pas, je l'ai été un temps, mais je ne le suis plus.
Ah oui,
bonjour,
ça remonte.
Bonjour à toutes et à tous en tout cas.
Et puis, Chérif Guémour, bonjour Chérif.
Bonjour Hugo.
Ah, c'est intéressant, ça, la petite toux pour remplacer le bonjour. Bon, vous, votre club de cœur, c'est plutôt quoi, AZ Alkmaar, c'est Utrecht.
Ajax, club de cœur, et puis bon, une petite, toujours une petite pensée pour Saint-Etienne, parce que c'est l'enfance, c'est les amis aussi là-bas.
Et l'Ajax, il y a un petit lien avec le PSG, puisqu'il me semble que le maillot originel du PSG était inspiré.
La
de
bande
celui,
latérale, ouais.
De celui de l'Ajax Amsterdam. Toutes les belles sagas ont une fin, à défaut de marcher seul. Le Liverpool de Jürgen Klopp se dirige vers une fin de cycle. La tête basse, le coach allemand ne partira pas sur un nouveau titre de champion, c'est pratiquement certain. Partir dans une bonne ambiance n'est pas forcément gagné non plus. Enfin, on connaît les affiches des finales des Coupes d'Afrique de clubs. Al Ahly, Espérance de Tunis se retrouveront pour le titre suprême en Ligue des Champions. Déception au passage pour le tout-puissant Mazembe. Radio Foot, c'est parti.
Dans la surface de réparation, la talonnade est sublime pour André Ayou qui est sorti du marquage de Danilo comme à ses plus grandes heures. André Ayou pour fermer son pied. Et Léa Vramène 3 buts 1 sur la pelouse du parc. Il a décidé de mettre ce ballon dans la surface de réparation.
Partout. 24 ans plus tard, sans suspense.
Rapide, efficace, déterminant. La différence pour l'instant, elle est là. Le contre fulgurant des Lyonnais, ce bon ballon de la casette. Lyon s'impose à l'issue d'un super match. Encore un. Ça y est, c'est fini. C'est Paris qui est sacré, encore une fois.
Le PSG était tout simplement l'équipe la plus régulière.
Bijou sonore signé Mathieu De Gueldre, le réalisateur de Radio Foot qu'on salue, aidé également, tout comme moi, par Pierre-Olivier Guérin. Le Havre et André Ayou ont gâché la fête samedi au Parc des Princes. Match nul 3 partout. Le Havre a même mené 1-0 puis 3-1 devant le Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui a tout de même validé un 12e titre de champion de France ce week-end. In extremis, on peut le dire comme ça, grâce au succès sur le fil de Lyon face à Monaco ce dimanche. Hier donc, un jour après son match, succès de Lyon 3-2. Un sacre en catimini au terme d'une 31e journée exceptionnellement prolifique, spectaculaire. 40 buts, toutes les équipes ont marqué au moins un but. C'est une première dans une journée de Ligue 1 depuis 1976-1977. La quatrième journée de Ligue 1 de cette saison-là, plus exactement. Reims avait notamment fait match nul un partout contre Lyon. Qui avait marqué du côté de Reims?
Bianchi, Carlos Bianchi. Bianchi. Carlos
exactement, Bianchi. C'est pas banal.
On peut pas dire que Reims s'est fait aussi bien cette fois. Hein.
C'est pas banal qu'un consultant de Radio Foot soit concerné par une statistique spectaculaire qu'on peut donner en début d'émission. Bah, on embrasse Carlos.
Il a marqué beaucoup plus de buts en Ligue 1 que les autres, hein, Carlos Bianchi.
Exactement.
Désobligeant pour eux, bien sûr.
Grand buteur en Ligue 1, grand entraîneur en Argentine. Et bientôt de retour dans Radio Foot. On referme là. La parenthèse, la Ligue 1 peut être emballante. Son champion est-il pour autant emballant ? Patrick Juillard, vous vouliez prendre la parole. Avez-vous aimé ce PSG 2024 ?
Ce que j'ai aimé dans ce PSG 2024, c'est que contrairement aux mauvaises habitudes de la maison, c'est une équipe qui a semblé monter en puissance et qui peu à peu a montré ce qu'on peut appeler une haine de la défaite, parce qu'en d'autres temps, sur d'autres exercices, avec une telle avance, peut-être que le PSG ne se serait pas autant, entre guillemets, dépouillé pour revenir de 3-1 à 3-3 à domicile, sachant que de toute façon, si ce n'était pas cette semaine, le titre aurait été acquis la semaine suivante. Donc ça, c'est positif. Je trouve qu'il y a un esprit d'équipe supérieur au standard habituel du PSG R qatarienne dans cette équipe. Après, le fait que le PSG ait beaucoup d'avance et ne boxe pas dans la même catégorie que tous ses adversaires en termes de budget enlève un peu de saveur à ce titre.
Oui, parce que sur les 12 titres,
on ne peut pas s'empêcher de relativiser.
Gagner avec le Qatar.
Voilà, on ne peut pas s'empêcher de relativiser un petit peu. Quand on voit l'écart et le fait qu'il y ait le monde du PSG et le monde des autres équipes
Monaco, le dauphin est assez loin voilà. Derrière, c'est vrai
donc
que...
C'est un avis un petit peu mi-figue mi-raisin, mais malgré tout je trouve que il faut saluer le travail de l'entraîneur et la cohérence croissante de cette équipe au fil des journées finalement,
et qui se confirme sur d'autres scènes, donc ce qui permet aussi de rehausser peut-être ce titre de champion. Le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions suivra ça cette semaine sur RFI. Romain Gara, on entendait Cédric de Oliveira dans notre petit montage sonore dire que le PSG avait été l'équipe la plus régulière. Comme l'a dit Patrick, ils ont les moyens de leur régularité, les Parisiens. Néanmoins, malgré un mercato onéreux l'été dernier, c'était plutôt analysé comme un recul, puisque les stars, les superstars partaient, Neymar et Messi. On recrutait des joueurs peut-être un petit peu moins flamboyants, c'était moins bling-bling. Donc comment on se place par rapport à ça, un PSG qui a des moyens supérieurs, mais qui a peut-être un peu reculé en termes de talent, mais qui est peut-être meilleur en termes de cohérence. Donc il y a pas mal de choses qui se bousculent.
Je crois que cette équipe, elle est beaucoup plus équilibrée que ses devancières, parce que on parle d'équipe de football, pas une accumulation de stars. Avec Neymar, Messi, Mbappé, c'est vrai qu'on a les trois peut-être meilleurs joueurs du monde de ces 10 dernières années. Mais après, l'équipe n'était pas équilibrée. Messi marchait, il ne faisait pas les replis défensifs. Neymar non plus, Mbappé non plus. Exit Neymar et Messi. Déjà, je crois, rien que par rapport à la grille salariale, avec la masse salariale qu'ils ont libérée, ils ont pu s'acheter des joueurs travailleurs. Le sorcier qui a marqué le troisième but avant-hier, c'est le surnom de Gonzalo Ramos au Portugal, parce que selon les Portugais, il arrive tout le temps à attirer tous les ballons dans la surface de réparation. C'est un sorcier, mais c'est un joueur qui travaille. Colomwani, il n'a pas marqué beaucoup de buts, c'est un joueur qui travaille. Le reste, Ugarte, tous ces joueurs qui sont venus sont moins bling-bling, c'est des joueurs travailleurs. La preuve, ils n'ont qu'une seule défaite en championnat depuis le début. C'est une équipe qui perd de moins en moins, que ce soit en Europe et en France, elle est beaucoup plus équilibrée.
C'est une question de mentalité, ça.
Ouais. C'est le mental, mais également cette rage de vaincre et de ne rien lâcher. Je crois qu'il y a 3-4 ans, si le PSG perdait au Parc face au Barça, jamais ils vont revenir en Ligue des Champions. Aujourd'hui, tout ça a changé. L'état d'esprit a changé, la volonté a changé. Et puis, ils ont des joueurs estampillés Paris. Que vous prenez un Colomwani qui est né, qui a grandi ici, en région parisienne, jouer pour le PSG est une fierté pour lui.
Qui a battu le PSG cette saison en championnat ?
L'OGC Nice.
Au Parc des Princes, en plus. Mais c'était une autre histoire. C'était en début de mandat pour Luis Enrique, Sheriff Gamour. C'est son premier titre à l'Espagnol sur le banc du PSG. Ça porte sa signature. Ou alors, c'est trop simple de gagner la Ligue 1 quand on est le PSG. Même Galtier et Pochettino, ils sont arrivés.
Non, mais comme l'a dit Yoro, la moitié du boulot était déjà faite avec le départ de Messi et de Neymar, parce que ça, ça, Ça pesait vraiment sur la mentalité, sur le groupe et puis sur le contenu du jeu, même si c'est les super joueurs. Ils n'ont pas été nuls non plus, on va leur rendre cette justice. La marque essentielle de Luis Enrique, c'est de s'être institué comme le vrai patron, de par son charisme, de par sa personnalité, et puis surtout, il a introduit une vraie notion de concurrence. Et ça, c'est pas évident, parce que des fois, on perd son groupe, et là, non seulement il ne l'a pas perdu, mais il a réussi à aboutir à ce que recherchent tous les entraîneurs, c'est-à-dire l'émulation, concurrence-émulation. Ça veut dire que tout le monde est concerné. Rappelez-vous, on est parti au début de l'année avec Ugarte, c'était le numéro 6, c'était lui, il ne bougerait pas. Et en fait, il y a eu beaucoup de bouleversements, il y a eu Ruiz qui a eu un retour de flamme. Tout le monde a eu sa chance. Tout le monde a eu sa chance. Bon, Barcola, il arrive, on l'a un peu moqué, qu'est-ce qu'il va bien faire et tout. Il n'a pas non plus abandonné Kolo Muani, il n'a pas...
Personne n'est au placard, en fait.
Personne n'est au placard. Et alors qu'il y en a qui ne s'en seraient pas remis... Donc, c'est ça.
Dans le cadre du championnat, parce que ça, on a dit que ça avait notamment pu aider en Ligue des Champions, mais dans le cadre du championnat, ce fait d'avoir créé un groupe cohérent,
Faites sortir Kylian Mbappé, c'est un message que vous envoyez à tout le reste du groupe.
Et d'ailleurs, il était sur le banc.
Oui. En plus, ça a été assez bien géré, on va le reconnaître, c'est assez bien géré.
C'est-à-dire que ça n'a pas été géré, c'est-à-dire que Luis Enrique, à un certain moment de la saison, s'est mis à utiliser Mbappé de manière un peu moins, avec un peu plus de parcimonie, parfois en ne l'utilisant pas ou en le faisant pas débuter. Et ça a créé des polémiques. Certains ont dénoncé une sorte d'orgueil, d'ego mal placé du coach qui veut être au-dessus des joueurs. Mais lui, il s'en est pas préoccupé. Il a continué à prendre ses décisions, à faire ses choix. Et finalement, les faits lui donnent raison et maintenant j'entends plus beaucoup de consultants qui critiquent le traitement suivi par Mbappé et ça a Yoro permis Mangara. L'émergence de Barcola, ce qui est une bonne chose.
Le PSG va jouer une demi-finale mercredi face au Borussia Dortmund, mais à l'infirmerie elle est vide. Pourquoi elle est vide? Parce que justement il y a ce turnover, il y a les joueurs qui jouent pas tous les matchs, ils se reposent et il y a moins de blessures.
J'en reviens au championnat, on a le sentiment que sur sa période qatarienne, donc avec ses moyens comme ça énormes, le Paris Saint-Germain, donc ça date de 2011, autant les premiers titres, les premiers trophées nationaux, parce qu'il fallait bâtir sur quelque chose, avait un sens. Chérif Guémour, l'époque des premiers trophées avec Zlatan, Thiago Motta, ça a perdu de sa saveur au fur et à mesure. Est-ce que là, ça revient, cette flamme un petit peu de « on est quand même content d'être champion de France », ça veut dire quelque chose quand même?
Non, il y aura toujours cette retenue du fait que, de toute façon, on associe le parcours du PSG chaque saison, championnat, Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment... autant on peut laisser tranquille des clubs comme City, par exemple. Bon, ils ont été éliminés, c'est pas grave, ils restent une grande équipe, ils vont peut-être gagner le championnat.
Et parce que c'est pas du tout le même championnat.
Non, bien sûr.
En termes de concurrence, gagner la Première Ligue, c'est plus important.
Je parle de tous les championnats en général. Avec le Paris, non. On attend à la fois d'un PSG qui gagne le championnat de façon assez nette et qu'il aille le plus loin en Ligue des Champions. Donc là, cette saison, ils font les deux. Donc, les deux se rehaussent, en fait. Le bon parcours en Ligue des Champions rehausse
le championnat,
parce que c'est le PSG, c'est comme ça qu'on les voit, et c'est comme ça qu'on les considère, qu'ils le veuillent ou non. Donc, pour l'instant, c'est du 100%.
Et il y a une Coupe de France à aller chercher pour réinstaurer une domination complète sur le plan domestique. C'était pas forcément gagné ces dernières saisons, Yoro Mangara.
Mais les gens, aujourd'hui, ils peuvent dire que oui, le PSG est champion, ils peuvent ne pas fêter leur titre parce qu'on s'y attendait. Mais au mois de septembre, peu de gens voyaient le PSG champion. On disait que c'est une saison de transition, c'est un PSG moins bling-bling, ils ont acheté...
C'était vraiment sur le championnat qu'on
disait
ça?
Oui, même sur le championnat, parce qu'ils n'étaient pas premiers. Mbappé était dans le loft, ils ont fait 3-0, je crois, pour démarrer la saison. Il ne fallait pas s'attendre à un PSG qui va gagner le championnat, etc. Pour moi, je crois que depuis que le Qatar est là, ils viennent d'avoir une idée, d'avoir quelque chose de cohérent en mettant un entraîneur qui a de la poigne, qui gère bien son vestiaire, et puis avec une équipe qui ressemble à l'entraîneur. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel joueur que tu mettras titulaire mercredi face au Borussia Dortmund, tu risques d'avoir le même résultat, sauf Kylian Mbappé.
Et en plus, ils peuvent jouer à différents postes. Donc Paris sacré en Ligue 1 grâce au succès de Lyon contre Monaco. On en a parlé en début d'émission. Monaco deuxième, trop loin du Paris Saint-Germain.
Là est le problème.
Mais Monaco peut être menacé par l'équipe surprise de cette saison en France.
Avec l'accélération de Mathieu Ziwa, bon ballon pour Kalimuendo. Et voilà, qui ouvre le score. Non, Brest n'est pas KO. Et Brest revient. Et ce coup de tête, ce coup de tête gagnant de Satriano. Brest qui prend l'avantage dans ce derby. C'est le derby des buts, c'est le derby de l'attaque, c'est le derby du spectacle. La tête de Théa.
Après Paris, Brest, on se régale grâce au petit poussé breton qui, comme un symbole, a validé son billet pour l'Europe la saison prochaine en assommant l'ogre voisin Rennes au terme d'un match épique 5-4. Brest était dans les limbes ou presque au milieu de la saison passée à l'arrivée d'Éric Roy sur le banc. Brest est aujourd'hui assuré de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Pour l'instant, c'est la Ligue des Champions, rien que ça. Il reste 3 matchs. La digue va-t-elle tenir sur le port de Brest qui veut se lancer Patrick Juillard? Est-ce que l'Europe sera synonyme de Ligue des Champions pour ce tout petit club?
Je crains si pour Brest que Lille les dépasse. Mais après, je vais peut-être doucher l'enthousiasme de mes collègues. C'est pas évident.
Un seul point d'avance pour Brest.
Mais ils sont vraiment... En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une équipe bluffante parce qu'on prédisait... qu'à un moment Brest finirait par céder. Là en plus, ils sont un petit peu il y a une interférence avec l'histoire du stade où ils devraient, s'ils se qualifiaient pour une Coupe d'Europe, jouer avec une seule tribune ouverte puisque les 3 des 4 tribunes sont en tubulaire, donc l'UEFA n'autoriserait pas. Enfin, il y aura sans doute un recours et peut-être un arrangement. Il y a eu peut-être des rumeurs de délocalisation de leur match européen. Donc tout ça met un peu ça peut mettre un rat dans la tête des joueurs et ce n'est pas le cas. Ils restent totalement focus sur leurs objectifs et ils jouent très bien au foot. C'est une équipe qui nous enchante parce qu'elle est extrêmement productive en fait. C'est-à-dire que dès qu'une offensive est entamée, on sait qu'il y a une grande chance que ça aille jusqu'à une occasion, voire plus. Donc c'est une équipe qui fait plaisir à voir jouer cette saison. Et ce match, effectivement, ça m'a rappelé un certain Monaco-Nice où Nice avait remonté 3 buts et avait gagné à Monaco en étant mené 4-1 à la 3-1 à la 67e minute.
Il y a 20 ans avec
Victor Agali,
le Nigérian qui avait signé.
Et ce match-là était ce qu'on appelle un match poursuite, en fait, un match complètement irrationnel. Et Brest est coutumier de ça cette saison et donc c'est très agréable à suivre.
Alors ce que vous avez entendu comme bruit, hein, ce n'est pas un coup de tonnerre
sur le micro,
d'enthousiasme de Brest, c'est l'enthousiasme.
En bon méridional, je parle avec les mains.
Exactement, c'est pour ça qu'on vous a mis Romain Gara. Brest, ça va tenir. Est-ce qu'après un match comme celui-ci, lourd en symbole, alors il n'y a pas une rivalité incroyable Brest-Rennes, mais bon. C'est le grand club de Bretagne,
la rivalité.
C'est censé être Rennes. Et là, 5-4, vous allez chercher la victoire. Il y a quelque chose de symbolique.
Ils ont eu un passage à vide lors des 2 derniers matchs avant celui-là. Là, ils se reprennent bien. Et puis, perdre face à Monaco, quand même, c'est pas tellement grave quand on s'appelle Reims. Mais je crois que cette année, c'est l'équipe la plus joueuse.
Oui, vous parliez de Brest.
Oui, Brest.
Vous avez dit Reims.
Ah, ouais. Non.
Vous avez confondu l'Ouest et l'Ouest et l'Est.
Exactement.
Quand on parle de passage à vide, on pense à Reims.
C'est l'équipe la plus joueuse de ce championnat. Et puis, avec pas mal de systèmes hier. Quand...
Monaco.
Mais non. Joueuse, je pense que c'est sur la durée de la saison. Brest, quand même, c'est quelque chose. Aujourd'hui, Éric Roy est en train de faire des merveilles avec cette équipe. Qui peut jouer dans différents systèmes. Hier, Kamori Doumbia, le Malien, était sur le banc. Ils ont joué sans numéro 10. Parfois, c'est lui qui est là entre les joueurs pour fluidifier le jeu, avec quand même un joueur retrouvé, un attaquant super fort. Moi, je retrouve celui que j'avais connu à Montpellier il y a 7-8 ans. Quoi.
Le Béninois.
Le Béninois, exactement. Et pour moi, ils mériteraient d'arrêt en Ligue des Champions, ne serait-ce que par rapport à ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison.
Et avec la nouvelle mouture de la Ligue des Champions, être troisième suffit à aller directement, j'allais dire en phase de poule, mais je n'ai pas encore tout à fait en tête le prochain système de la Ligue des Champions. Donc effectivement, un système de poule. L'important, c'est que Brest serait qualifié en restant troisième. Peuvent-ils rester troisième, Chérif Guémouin?
Je pense que oui, il y a une dynamique. Il n'y a pas que ce match-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le match de Lyon, ce qui fait que Brest est quand même sur pratiquement les deux grands matchs de la saison, avec le match de Lyon puis le match d'hier quand même, hein, 5-4, record de but pour cette saison.
Lyon, ils perdent, dans mes souvenirs.
Oui, ils perdent.
Ils perdent, mais
ouais, c'est un grand match.
C'est un 4-3.
Ils ont perdu deux fois, contre Lyon et contre Monaco.
Deux grands matchs. Une défaite et une victoire, mais deux grands matchs avec les buts qu'ils ont marqués.
C'est vrai que c'est synonyme de spectacle, quand même. Brest. Ouais.
Donc, sur la foi de cette dynamique, je pense qu'ils peuvent aller au bout, être dans les trois premiers, c'est jouable. Après, ça va être dur, il va falloir chercher Monaco. Très décevant, fin de saison, mais ça, c'est la fin de la parenthèse. Non, surtout, ce qui est intéressant avec Brest, c'est à chaque fois qu'un championnat débute, que ce soit pour les promus ou pour les petites équipes, on sait qu'elles doivent engranger d'abord des points, ensuite de la confiance. Et elles se livrent souvent à... Elles osent jouer. Et très, très vite, si les résultats ne suivent plus, on commence à bétonner, on commence à avoir peur et tout. Brest a eu la chance d'être projeté dans le premier tiers du championnat. À partir de là, une fois que le maintien a été acquis, il est arrivé ce qui peut arriver de plus beau à une équipe, une petite équipe entre guillemets, c'est pouvoir se lâcher, trouver ensemble le plaisir de jouer, de prendre des risques, d'oser. Et bon, ça, ils le doivent évidemment à leur entraîneur parce que lui, il a mis les ingrédients tactiques, le choix des joueurs et tout. Et il n'y a rien de plus inarrêtable qu'une équipe qui joue libre dans sa tête, qui ose et qui tente tout ce qu'elle peut tenter. Je ne crois pas qu'en début de saison, il y avait tous ces automatismes, tous les buts qui marchent sur coup de pied arrêtés dans le Girondin. Oui, on savait qu'ils avaient ces points forts, mais là... Ça, quand on regarde tous les buts qui marquent, c'est des buts sur compte, c'est des buts en action placée, c'est des buts sur coup de pied arrêté. La panoplie, elle est complète. Et c'est une équipe à buteurs multiples. Ça veut dire que tout le monde s'éclate dans cette équipe. Mais ça, c'est le rêve de tous les entraîneurs. De tous les entraîneurs.
Vous parliez, Chérif, d'émulation pour le PSG. C'est aussi ce qu'a fait Éric Roy, ce qu'a suscité Éric Roy. Avec Brest, parce qu'on peut sortir un joueur, mais l'équipe reste productive et ils se tirent un peu la bourre, tous ces joueurs. Il y a eu un triplé de Madi Camara sur un match, un milieu de terrain.
Exact.
Ça, c'est improbable.
Et
moi, tout est résumé pour moi dans leur premier match au stade Francis Leblay cette saison. Ils accueillent Lens, qui était le dauphin du PSG la saison d'avant. Ils sont menés 2-0. On se dit, Brest va couler. Là. Brest a pris l'eau. Brest
imagine, ils finissent
par gagner 3-2.
Ouais.
Avec deux pénalties de Del Castillo. Mais ça, c'est le match où on a vu toutes les vertus guerrières, dans le bon sens du terme, de cette équipe.
Et si le score était resté là, à 0-2, c'est pas la même, c'est pas le même début de saison.
La saison change totalement.
On est d'accord.
Nettement, sensiblement, on va dire.
Donc, choper le bon wagon dès le départ, gagner en confiance.
Tout s'est joué contre Lens, et puis tout s'est joué grâce au rebut de l'OGC Nice, hein, qu'il aurait fallu garder, Pierre Lesmélou et Éric Roy.
Que vous alliez parler d'Éric Roy.
Mais les deux ont été jetés. Et ils sont devant.
Pardonnez-moi, Hugo, mais sur Éric Roy, il a beaucoup changé dans ses conceptions.
Il avait été entraîneur de Nice au début des années 2000.
Nice bétonné à l'époque.
Oui, et il n'a pas eu de carrière d'entraîneur entre ces deux expériences.
Il a été plutôt directeur sportif.
Voilà, en Angleterre.
Ce qui est quand même un drôle de parcours et c'est tout
et
à son honneur.
Ça montre qu'il s'est remis en question.
Brest talonné par Lille, un peu moins par Nice, cinquième. Lille et Nice, ils ont comme rivaux respectifs Lens et Marseille qui les suivent justement
et
en
Lyon
classement.
Aussi.
Lens sixième, Marseille septième et ben justement Lens, Marseille.
Au nord, c'était les corons.
Rentre chez toi, tu fais peur aux oiseaux.
Marseille a donc battu l'un de ses rivaux musicaux, peut-être, effectivement, pour les dernières places européennes. Rival footballistique également. 2-1 pour l'OM face à Lens grâce à un but. Le Pape Gueye.
Pape.
À la 85e minute, Aubameyang avait ouvert la marque, l'inévitable Aubameyang.
Et une passe de Illiman Diaye.
Donc un OM presque 100% joueur décisif africain et très, très sénégalais pour faire la différence face à Lens 2-1. Bon.
C'est l'axe Dakar-Braza. Dakar-Libreville.
Plutôt. Dakar-Libreville, effectivement. Marseille qui a montré des ressources, mais dans la douleur, hein, quelques jours de sa demi-finale de Ligue Europa contre l'Atalanta. L'Atalanta qui, selon les journalistes français qui commentaient le match, ressemblerait dans le jeu à Lens. Aubameyang, Pape Gueye, donc les buteurs. Est-ce que cette victoire d'hier, entre guillemets, nous donne un aperçu de ce qui va être la fin de saison de Marseille, Chérif Guémour? Ça va passer dans la douleur, miraculeusement, mais ça peut passer en Ligue Europa comme en championnat pour accrocher une place européenne.
Bah en championnat, ça reste l'OM, c'est-à-dire toujours dans la difficulté de toute façon. Il n'y a pas une grande marge. Hein, voilà.
Ah non, il n'y en a pas.
Voilà, c'est ça qu'on va dire. Après, la Coupe d'Europe, il y a une mystique à Marseille. Les Coupes d'Europe en général. Alors évidemment, ils peuvent se faire sortir au premier tour en Ligue des Champions, comme on a vu ces dernières années. En Europa League, par contre, il y a ce qu'on appelle la C3 en général. Il y a une belle histoire, il y a des finales, il y a des épopées. Donc, je pense qu'ils vont être portés par cette mystique de toute façon. L'Atalanta est un gros, gros morceau.
Oui, mais Benfica, au tour précédent, était un gros morceau. Et c'est passé, justement. Ah non,
dans le jeu, l'Atalanta, cette saison, c'est au-dessus.
Pour moi, l'Atalanta, c'est au-dessus. Ah, hein. Oui. C'est, après, comparé à Lens, bon, il faudrait voir et tout.
Je pense 3, que c'était
3.
Plus une comparaison en termes de style de jeu, d'intensité.
Il y a le 3-4-3. Oui, à part ça, mais bon, aujourd'hui, vous prenez Scamacca, il n'a pas le même style que Eli Wahi.
Il serait incertain pour le match de jeudi, Scamacca.
Oui,
mais beaucoup.
Il y aura Lookman titulaire, ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour l'OM si Scamacca n'est pas là.
L'Atalanta, ça va de l'avant, il y a un gros impact au niveau du milieu. En général, il y a une intensité de la première à la dernière minute. Attention, l'Atalanta, ça joue. Il y a une marque Gasperini, c'est une équipe qui est régulièrement là en Coupe d'Europe, qui ne joue pas tous les tout premiers rôles en Serie A. Mais...
Et il y a un ancien de l'OM qui connaît bien la maison à l'Atalanta avec Kolasinac.
Donc,
qui joue dans une défense à trois.
Et la force de cette équipe de l'Atalanta, c'est sur les côtés, et Marseille est très faible sur les côtés.
Entre autres, ouais.
Mais est-ce qu'il y a justement ce supplément d'âme, cet atout cœur,
oui,
qui fait que vous renversez des situations un peu improbables,
oui,
vous êtes porté par le vélodrome.
C'est ça, on appelle ça la mystique. La mystique européenne de l'OM.
Non, mais je trouve que cette équipe de l'OM, moi, je trouve qu'elle est mal conçue, l'effectif est mal fagoté, il y a beaucoup de trous dans cet effectif.
Bah, la saison est plutôt mal fagotée, elle finit bien, en tout cas avec des objectifs,
et malgré,
mais c'est improbable.
Malgré, il y a aussi eu beaucoup de blessures, pour ne rien arranger, surtout au retour de la CAN. Et malgré ça, cette équipe a beaucoup de ressources morales. Je ne sais pas si c'est Gassé ou si c'est des joueurs qui ont compris que peut-être quelque chose de grand leur tendait les bras au fur et à mesure des tours de Coupe d'Europe. Mais je trouve qu'elle a un bel esprit, elle ne s'avoue pas vaincue facilement. Elle peut retourner des situations.
En Coupe d'Europe ?
Même en championnat. Parce que contre Lens, on ne peut pas dire que l'OM ait survolé les débats et qu'il méritait de gagner de la tête et des épaules, mais ils l'ont fait. Donc je trouve qu'il y a quelque chose. Et contre Nice, en match en retard mercredi dernier, il s'en est fallu d'une barre transversale pour que sur un dernier rush incroyable d'Aubameyang, l'OM ne gagne pas ce match où ils étaient à 10 contre 11 pendant presque une heure. Donc ça montre que c'est une équipe qui s'avoue pas vaincue. Moi je trouve qu'il faut leur reconnaître ça.
Attends.
C'est pas des esthètes, hein. C'est pas une équipe.
Non, mais
on parlait du beau jeu de Brest.
On ne demande pas forcément ça sur cette fin de saison.
Attendons les trois derniers matchs de l'un.
Mais je crois aussi que sur cette fin de saison, récupérer Ismaël Assar à ce moment de l'année, de la saison.
Il faudra qu'il soit mieux qu'au début.
Mais déjà, je suis sûr qu'il faudra oublier le ballon, quand ils seront en Italie face à cette équipe de l'Atalanta Bergame, ça va sortir en contre. Et dans ce registre-là, je crois qu'il fait partie des meilleurs joueurs quand même de l'Olympique de Marseille. S'il faut prendre la profondeur, accélérer, courir et essayer d'appeler le ballon dans le dos de la défense. Il faut qu'il soit juste plus lucide pour pouvoir servir Aubameyang. Oui,
Marseille, Atalanta Bergame, jeudi, demi-finale de Ligue Europa. La veille, Dortmund-PSG, demi-finale de Ligue des Champions. RFI, Radio Foot International sur le coup, évidemment. Toute cette semaine, la semaine d'après, évidemment aussi. Au fait, petite question, l'Atalanta, quelle équipe a-t-elle éliminée? En Ligue Europa,
Liverpool.
Et ben donc voilà.
Yes, I'm lonely. Avec Alisson, cette fois totalement impuissant pour permettre à West Ham de prendre l'avantage. Elle est redoutable, cette équipe. Yes, I'm lonely. Andrew Robertson qui relance Liverpool et surtout retrouver l'envie, la passion et la motivation. If I ain't dead already. Girl, you know the reason why. Ce sont vers Antonio. Et but de Mikel Antonio. C'est terrible. Liverpool incapable de breaker. Et West Ham sur un militant fort qui parvient à égaliser. C'est la dure réalité de cette fin de saison où Liverpool ne maîtrise jamais vraiment tout. Les Reds avaient un ultime joker. Girl, you know the reason why. Ils l'ont grillé.
La fin des illusions pour les Reds de Jürgen Klopp qui ont tout perdu en quelques semaines.
Le blues des petits gars de Liverpool, des Reds tenus en échec de partout à Londres, sur le terrain de West Ham. Déception sur le terrain, mauvaise vibration sur le bord, la ligne de touche, au moment de l'entrée en jeu de Mo Salah. Petite prise de bec entre l'Égyptien et son coach Jürgen Klopp en parallèle hein, de l'égalisation des Hammers de West Ham. C'était en fin de match, mais bon, circuler, il n'y a rien à voir, nous dit Jürgen Klopp.
Nous nous sommes parlé avec Salah dans le vestiaire et pour moi l'incident est clos, il n'y a rien à signaler. Et je crois que c'était le cas pour lui aussi. Je vous l'ai déjà dit, on a joué 4 matchs en 10 jours. Si vous trouvez un entraîneur qui arrive à faire jouer la même équipe pour tous ces matchs, je laisse la main à ceux qui prendront la suite. Pour moi c'est terminé. J'essaye de faire ce qu'il me semble être juste et j'ai trouvé que ceux qui sont entrés en cours de match se sont bien débrouillés.
Bon. On est tenté de quand même un peu le croire. Jürgen Klopp, il n'est pas du genre à mentir en conférence de presse. Mais plus globalement, Sheriff Gaymour, la fin de règne de Jürgen Klopp à Liverpool, on rappelle que l'Allemand est arrivé fin 2015, qu'il a notamment remporté la Ligue des Champions et enfin un championnat d'Angleterre avec Liverpool 2020. On a l'impression que sa fin de règne, elle est douloureuse. Liverpool, en tout cas, ne sera probablement pas dans le match à 3 pour le titre avec Arsenal et Manchester City. Et puis l'impression tout simplement que quelque chose se délite.
Oui, alors d'abord, il y a la belle histoire qu'on s'est tous racontée à partir de la conférence de presse de Klopp le 26 janvier dernier. On a tous
il annonce son futur départ.
Oui, quand il annonce son départ. Après, ça a été un choc, hein. Évidemment, là-bas, à Liverpool, ça a été un choc. C'est peut-être aussi le début d'un esprit qui s'est délité progressivement, mais ça, on le saura plus tard. Mais c'est surtout, nous, on a vécu, enfin, nous tous, les amoureux du ballon, les Anglais, enfin, de l'Europe, le monde entier, on s'est dit, bon, ben voilà, il y a cette séparation, il va partir. Et il va partir, mais sur une belle note. Ils sont en course pour un triplé en Europa League, en Cup et en championnat. Non, mais ça, c'est une belle histoire. Mais après, il y a la réalité. Et la réalité, moi, ce que je voyais de la réalité, c'est que c'était une équipe qui était toujours en apnée, qui avait de plus en plus de mal à faire des différences. C'est une équipe où, objectivement, quand on regarde certains postes clés, je pense par exemple à Alisson, qui est plus aussi bon qu'avant. Van Dijk, à mon sens, n'est jamais entièrement revenu à 100% de sa blessure. Même si ça commence à dater, il n'est plus aussi souverain. On nous a parlé de la nouvelle génération des petits jeunes. Vous allez voir, ils vont tout renverser. Je suis pas vraiment... J'ai pas vu de vrai génie. Et puis après, il y a... Comment dire? Dans l'esprit Liverpool, quand il y a des Milner et Anderson, qui partent, il y a quelque part un peu de l'esprit maison qui s'en va. Et puis, je parlais des postes clés. En numéro 9, ils n'ont pas retrouvé un numéro 9. J'aime beaucoup Gakpo, j'aime beaucoup Diogo Jota. Mais ça
Darwin Núñez,
non, il rate beaucoup trop. Notre ami Salah, je pense qu'il est revenu trop vite après sa blessure à la Cannes. Et puis, moi, je me rappelle surtout que ce qui faisait la force de ce... le cœur du jeu, avant de parler des attaquants, des super attaquants qu'on a connus et tout, quand vous aviez un Fabinho et un Wijnaldum, il y avait une grosse, grosse partie du boulot qui était fait. Et pour moi, ces joueurs-là n'ont pas été remplacés malgré l'arrivée de McAllister. C'est très bien tout ça. Mais c'est une équipe quand même qui s'est dévaluée, à mon sens.
Non, mais c'est incroyable. Sheriff Gaymour, il rate non pas l'éléphant, mais le... le lion dans la pièce. Est-ce que le
règne
de Jürgen Klopp, merci beaucoup pour cette passe décisive. On n'a plus qu'à pousser le ballon dans le fond des filets. Il y a Romain Ngara. Est-ce que le règne de Jürgen Klopp, il n'a pas débuté avec le départ d'un certain
Sadio Mané.
Exactement.
Il n'a pas été remplacé parce qu'aujourd'hui, juste avant qu'il ne parte, ils ont pris Luis Diaz, qui est plus un joueur pour les yeux qu'un joueur de stats.
C'est un complément, c'est un joueur en attaquant.
C'est ça, il peut réussir des dribbles, c'est joli, hein, c'est beau à voir ce qu'il fait, Luis Diaz.
Très utile.
Mais ce n'est pas quelqu'un qui va te mettre 20 pions en championnat ou 25. Alors que Sadio Mané, ces dernières saisons à Liverpool, c'était 20, 24, 25.
Surtout pour faire la différence, on mène 1-0, 2-0, 3-0.
3-0. Voilà. Ils ont perdu ce joueur et ils ont perdu celui qui faisait le lien entre le milieu et l'attaque, Bobby Firmino. On ne parle pas beaucoup de ce joueur, mais c'est un énorme playmaker. Et je crois que les joueurs qui sont venus après Sadio Mané, après Firmino, après les milieux de terrain que tu as cités, Shérif, sont moins bons que ceux qui sont partis. Et autre chose, il y a l'atmosphère de fin de règne. Quand vous êtes demandé aux présidents qui doivent partir, quand vous annoncez votre départ, même le tâcheron n'a plus peur de vous. Ça là, ce qu'il a fait il y a 2 jours.
C'est
un mondovision, c'est impensable si Klopp devait rester à Liverpool 3-4 années plus tard. Parce que là, il va signer son départ et puis c'est tout.
C'est le point névralgique pour moi. C'est le point névralgique. Shérif l'a dit à juste titre, Salah a été blessé à la cuisse pendant la CAN. Mm-hmm. Il était rentré à Liverpool. Il ne savait même pas encore si l'Égypte allait continuer ou non.
Oui, il aurait pu revenir en Côte d'Ivoire si l'Égypte était allée au bout.
C'est ce qui s'était dit, mais bon, je pense qu'il ne serait pas revenu. Mais bref, et depuis, il a joué 10 matchs, il n'a marqué que 3 buts. Alors on se dit, c'est 3 buts, c'est mieux que rien, mais par rapport au standard habituel de Mohamed Salah, on est extrêmement en dessous. Et puis surtout, c'est au-delà des stats, son apport, son impact sur l'équipe est beaucoup plus faible.
Il ne rayonne pas. Il est revenu trop tôt,
Patrick. Voilà, absolument. C'est un joueur qui ne rayonne pas. Et moi, alors tout le monde nous dit qu'il veut rester, selon The Athletic, le site en général bien informé, il voudrait rester, honorer sa dernière année de contrat. Moi, j'en suis beaucoup moins sûr. Hein. Ça ressemble plus à un appel du pied pour faire monter les enchères et se dégoter à un autre contrat ailleurs. Parce qu'à mon sens, je ne sens pas vraiment le Salah s'inscrire avec le nouvel entraîneur.
Est-ce que tu le trouves complémentaire Darwin Núñez
Parce qu'il a triplette offensive, Mané, Firmino, d'avant, Salah était parfaite.
Bah voilà.
Et maintenant, si vous mettiez Jota à la place de Firmino, c'était déjà un peu moins bon.
Jota, c'est pas mal.
Avec Núñez ou Gakpo, c'est en dessous. En fait.
Et d'ailleurs, puisqu'on parle des joueurs et de leur recrutement... L'architecte du recrutement de Liverpool a précédé également Klopp dans un départ, Monsieur Edwards, j'ai pas son prénom. Donc il y a plusieurs choses qui peut-être annonçaient une certaine fin de règne. On en reste là pour Liverpool. Simplement, juste préciser que j'ai croisé plusieurs fois et même toute l'équipe de RFI en Côte d'Ivoire. Nous étions dans le même hôtel que l'Égypte et Mo Salah. Nous n'avons rien à voir avec sa blessure. qu'il nous excuse, mais nous n'y sommes. Pour rien, je veux rassurer nos auditeurs fans de Liverpool. Nos auditeurs ont du talent, des avis, et chaque lundi, ils s'expriment dans Radio Foot sur RFI.
Je suis l'architecte Théodore Ntamena au Tchad. Je suis vraiment découragé par la prestation de Liverpool et Jürgen Klopp qui rate de s'en aller avec un titre. C'était vraiment un match désolant.
Salut Radio Foot International, je suis Jean Yabré, j'appelle de Burkina Faso. Depuis Ouagadougou. Ce que moi je pense de la Ligue 1 aujourd'hui, la Ligue 1 peut rivaliser avec les 4 grands championnats. Aujourd'hui, la Ligue n'est pas loin du niveau de la Bundesliga. Si la Ligue 1 aujourd'hui est un bon niveau.
Bon après-midi à toute l'équipe de Radio Foot International. J'aimerais un peu parler sur l'élimination de tout-puissant Mazembe contre l'équipe de Al Ahly en demi-finale de la Ligue des Champions africaine. C'est une désillusion pour tous les Congolais. Cette équipe de Mazembe qui a vraiment résisté jusqu'au bout et qui aurait pu même marquer en premier, mais l'assistance vidéo a refusé les buts de Joël Béa et c'est dans la suite que les joueurs ont perdu leur nerf et par la suite ils ont encaissé ces 3 buts.
Bonjour RFI, c'est Messi fidèle depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. À propos du tout-puissant Mazembe, je crois que le club a fait un bon parcours. C'est vraiment quelque chose à saluer, le travail de l'entraîneur Mamadou Lamine Ndiaye. Nous espérons que la saison prochaine, il pourra encore faire mieux.
Vous vous exprimez via WhatsApp comme chaque lundi. Ne soyez pas dissipés, chérie Gabour. Écoutez nos auditeurs. Saluez notamment les corbeaux du tout-puissant Mazembe. Un tout-puissant impuissant face au club le plus titré d'Afrique, roi du continent en titre, Al Ahly. Défaite 3-0 en demi-finale retour de la Ligue des Champions vendredi, après avoir concédé le nul 0-0 en RDC à la maison à Lubumbashi. Patrick Juillard, les corbeaux savent voler. Ils ont volé ceux de Mazembe très haut, 5 fois champion d'Afrique, finaliste du Mondial des clubs. Mais là, difficile d'atteindre les hauteurs de Al Ahly.
Ils estiment aussi avoir été volés, mais d'une autre manière.
Par un but refusé.
Rappelons-le tout de même, parce qu'on voit 3-0, on se dit bon, 0-0 chez eux, 3-0 au Caire, il n'y a pas eu photo. En fait, pendant
absolument.
Les surtout deux les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps.
Voilà, il y a eu un temps fort très fort. Ponctué par ce but de Joël Beya, refusé pour une main préalable. Bon, ça arrive plutôt à domicile qu'à l'extérieur, ce genre d'arbitrage, hein, en Afrique et ailleurs. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Après, Al Ahly a fait le nécessaire pour qu'il n'y ait pas trop de polémiques.
Notre ami gardien qui avait été excellent.
Fatih, il a été super bon.
Ayoun Badara Fatih, effectivement, sur les 20 premières minutes, il sort deux grosses parades. Et je pense que ce gardien-là, à mon sens... Il peut prétendre à être dans les trois gardiens du Sénégal pour les prochaines échéances.
On est d'accord.
On s'est parlé
parce que derrière,
je lui en parlais,
Edouard Mendy et Mori Diaw qui sont vraiment au-dessus, je pense qu'il peut prétendre à la troisième place.
Ouais, mais malheureusement, c'est Sénégal, mais bon, depuis la Coupe du Monde.
Voilà,
Coupe
mais je pense qu'on parle d'émulation.
Vous lui avez parlé après.
Après la défaite, on s'est parlé, on s'est envoyé des textos. Je lui ai dit courage, tu as été très bon sur le match.
Ouais.
Juste avant, on s'est parlé parce que eux, ils croyaient que c'était encore possible. Hein, ouais, après le 0-0, ils ont fait un excellent match. Et puis, ils ont la chance d'avoir un entraîneur qui connaît bien cette compétition, Lamine Ndiaye, et qui a gonflé à bloc son équipe. Ils ont fait 70 très bonnes minutes avant de s'écrouler, malheureusement. Parce que les gens, ils oublient cette émotion, cet ascenseur émotionnel. Quand on marque un but, on le célèbre, cette adrénaline qui se dégage.
Après, il faut redescendre.
Il faut effacer, en fait.
Effacer tout ça.
Mais c'est très difficile.
Trois minutes après, ils ont pris un but.
Oui, et puis
Le but, je crois même que le gardien n'était pas concentré parce qu'il pouvait
Malheureusement.
C'est pas trois minutes, mais c'est une petite dizaine de minutes. Mais c'est dans la foulée.
C'est ça.
Et un but, bon, Abdelmonem, encore un joueur très jeune, mais déjà très expérimenté.
Parce qu'il y a aussi, voilà,
le TP Mazembe qui revenait cette année dans le dernier carré ne pouvait pas lutter avec Al Ahly, a fortiori au Caire.
Est-ce que justement on peut construire sur ce parcours remarquable, en sachant que c'est peut-être le début d'un cycle là où Al Ahly est à... Bon, alors ils n'ont pas beaucoup de temps faible, les joueurs de ce club égyptien, mais peut-être forcément sur un rythme de croisière.
Ça fonctionne très bien, l'attelage qui a été mis en place avec... Donc Lamine Ndiaye et son adjoint français.
On parlait du tout-puissant Mazembe.
Oui, Alexandre Jurin, qui est quelqu'un de plus jeune et peut-être plus proche des jeunes joueurs. Qui est un homme de moins de 40 ans. Ça fonctionne très bien et eux, ils pensent que les deux grands parcours dans les compétitions africaines sont possibles dans les années à venir.
Mais vous me faites signe, Chérif Guémo, vous voulez dire un petit mot, mais dites un grand mot sur tout-puissant Mazembe.
Mais d'abord... On va insister pour ceux qui nous écoutent. La grande qualité du match, on est tous d'accord quand même. C'était le niveau de cette demi-finale, le match retour. Mais pour moi, j'ai vu des standards. Comparer à la Ligue des Champions, c'est européenne, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai vu des équipes en place, j'ai vu des actions de but des deux côtés.
Et puis, ça attaque pas à deux, quoi.
C'est généreux
dans l'effort.
Il y a un impact physique, la pelouse nickel. Attention,
et les gradins.
Hein ? Les gradins.
Les gradins, le stade tout rouge, évidemment, bah oui. du Caire. Et voilà, il y a ce qu'on raconte souvent, il y a le score, il y a l'histoire du score. Ouais. Le score, c'est 3-0. On a l'impression qu'en effet, Al Ahly a survolé.
Non, alors qu'en fait, joue non, sur 20 enfin, minutes.
Voilà, ça s'est joué. Voilà, ça s'est joué. Et
sur les deux matchs, si on doit additionner les temps forts et les temps faibles, c'est le TP Mazembe qui a le davantage produit, mais malheureusement mais l'efficacité et la gestion des moments clés par le manque d'expérience
le de
leur a fait défaut.
Voilà. C'est vous affrontez, vous êtes un peu le
c'est
Liverpool qui affronte le Real Madrid de l'Afrique.
C'est la montagne, c'est la montagne. Al Ahly, c'est la montagne, c'est faut la gravir.
Le Mazembe, c'est le début d'un nouveau cycle qui a été initié en avril 2023 quand Lamine Diaye est revenu au club après une dizaine d'années d'absence. Et c'est, je pense que ça n'est que le début d'une très bonne période pour ce club qui se reconstruit et qui est aussi handicapé par l'irrégularité d'organisation de la Lina Foot du championnat de RDC.
Mais vous avez vu avec quel calme, quel esprit méthodique Al Ahly a fini par gagner.
C'est, c'est une équipe qui est dans c'est sa cinquième finale de suite, si je ne me trompe pas.
Yoro Mangara, l'affiche de la finale, Al Ahly face à l'Espérance de Tunis. Espérance de Tunis qui dominé 2-1-0 les Mamelodi Sundowns. Vous attendiez à cette affiche parce que c'est vraiment les deux meilleures équipes.
C'est les deux meilleures équipes du moment. En plus, Mamelodi Sundowns, c'est quand même cette équipe qui fournit 80 voire 90% des joueurs de l'équipe nationale sud-africaine. Quand tu fais une demi-finale de Coupe d'Afrique, tu joues la troisième place avec les mêmes joueurs. C'est-à-dire, ils ont
Ça, c'est la CAN.
C'est la CAN.
Ils ont gagné la nouvelle Ligue africaine.
Ils ont beaucoup joué entre 2023 et 2024 et on a senti une équipe qui était en manque de fraîcheur physique. Et ça s'est vu. Et puis après, je crois que techniquement, l'Espérance de Tunis était quand même au-dessus.
Et puis Peter c'est la revanche de 2018. Hein.
Peter Chalouli, le buteur namibien de cette équipe, fait un peu défaut en ce moment. Il n'y est pas, il a été blessé. Et puis l'Espérance de Tunis, il faut saluer le travail de Miguel Cardozo, qui est passé par la Ligue 1, par Nantes, et qui a donné, à l'Espérance, ça fonctionne bien. Il a un peu solidifié cette équipe, il lui a donné une identité de jeu assez pragmatique et défensive, mais ça marche. Et gagner 2-1-0 contre les Mamelodi Sundowns, alors qu'on est en partie dominé, c'est le signe quand même d'une équipe qui est bien organisée, qui est cohérente, qui sait voyager.
Et les Mamelodi Sundowns, c'est un petit peu les favoris, les chouchous de beaucoup de gens en début de saison. Mais bon, on a expliqué qu'il y avait eu beaucoup de matchs. Ça aurait peut-être fait du bien de ne pas avoir une équipe, une finale 100% Afrique du Nord.
Oui, mais bon.
Vu de RFI, on se dit que...
Oui, c'est vrai, parce que quand nous sommes arrivés au niveau des quarts de finale, il y avait beaucoup d'équipes de l'Afrique du Sud du Sahara. Malheureusement, elles ont été éliminées en demi-finale. On aura deux belles rencontres en finale parce que c'est quand même un aller-retour. La CAF est revenue sur l'ancienne formule. Ça va nous permettre de vivre deux matchs palpitants.
Ça commencera en Égypte, à l'Ali Espérance de Tunis. Ah non, ça commencera en
Tunisie,
pardon.
Le 18 mai.
Le 18 mai, vous voyez, je lisais mal mes fiches. 18 mai, donc le match aller en Tunisie. Le retour en Égypte le 25 mai prochain. Simplement, l'affiche de la finale de la Coupe de la Confédération, je pense qu'on la connaît.
Ouais.
Est-ce qu'on la connaît A priori, le Zamalek, il sera pour une touche égyptienne.
On atteindra le TAS.
Et puis, renaissance de Berkane, puisqu'il n'y a tout simplement pas eu de demi-finale jouée sur le terrain entre la renaissance de Berkane.
C'est dommage. Ce qui se passe entre ces deux pays, c'est dommage.
C'est un problème textile.
Oui, non, un problème de maillot pour affronter
cette demi-finale Patrick.
En Égypte le week-end dernier. Et l'équipe algérienne, c'était
l'USM Alger.
C'est Alger, l'USMA. Voilà.
L'USMA.
N'est pas venu.
Le club de Soustara.
Qui a perdu donc son match aller 3-0 sur tapis vert pour ne pas avoir accepté le maillot de l'équipe adverse à Renaissance
de
Berkane.
Elle s'est déplacée, mais elle n'a pas joué.
Et n'a pas joué ce week-end au Maroc, donc pas de demi-finale.
C'est bien
une finale entérinée, on ne sait pas. Merci Yoro Mangara, merci Patrick Juillard.
Merci à vous.
Merci Chérif Guémour. Tout de suite un nouveau journal sur RFI.